de Duhamel Ouest. Découvrez le Marais La Perrière, offrant un sentier pédestre enchanteur, abritant 154 espèces d'oiseaux et une faune diversifiée, accessible gratuitement toute l'année. C'est une magnifique occasion de faire le plein de nature et reconnecter avec celle-ci. Duhamel Ouest, là où il fait bon vivre, voici maintenant la chronique environnement.
C'est maintenant l'heure de la chronique environnement sur les ondes de CKVM et on reçoit M. Yoann Jalouzo. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Aujourd'hui, tu venais nous parler de l'éducation par la nature. Je te laisserai commencer avec ça.
Oui, effectivement, aujourd'hui, on va parler donc de l'éducation par la nature, c'est-à-dire comment reconsidérer les méthodes d'enseignement traditionnelles que l'on peut voir dans l'éducation, soit dans des salles de classe avec un programme bien défini à suivre à la lettre, afin de retourner vers des méthodes d'apprentissage qui vont être plus en accord avec le rythme des jeunes.
Et donc, ça part de quel principe, ça, l'éducation par la nature?
Eh bien, tout simplement, ça part du principe que l'inconnu fait peur. Donc, en rapprochant les enfants de la nature, on leur apprend à la découvrir, à l'apprécier et donc à l'aimer. Et quand on aime, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on protège parce que ça nous tient à cœur. Si on prend l'exemple d'un ou d'une riveraine qui habite au bord d'un lac, ben, cette personne le connaît, l'aime et donc la plupart du temps veut le protéger. Une autre notion importante dans l'éducation par la nature, c'est que ça permet de contrer le déficit nature, c'est-à-dire le déclin du contact avec la nature qu'on peut avoir dans nos sociétés modernes, qui sont très portées sur l'exploitation, la technologie, le numérique, et qui entraînent des impacts sociaux et environnementaux négatifs.
Mmh, exactement. Et donc, comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre pour faire l'éducation par la nature? Est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Est-ce que c'est disponible? Est-ce que c'est accessible?
C'est pas vraiment compliqué, en fait, c'est presque retourner vers quelque chose de plus élémentaire. Je dirais que le plus compliqué là-dedans, ce serait la transition, donc former les enseignantes et enseignants à retourner vers des apprentissages qu'on pourrait qualifier de plus primitifs, mais aussi de plus sains, parce que c'est des apprentissages qui vont être plus en rythme avec le développement des enfants. Donc je dirais que c'est vraiment la transition qui est plus complexe à mettre en place que l'éducation par la nature en tant que telle.
Mais est-ce que ça serait comme un peu des ateliers, des sorties extérieures? Comment ça se concrétise?
Ouais, bah effectivement, ça pourrait être ça. En fait, ça peut se manifester de plusieurs façons, mais dans tous les cas, il s'agit de susciter l'émerveillement, la contemplation, le jeu libre et le travail collaboratif. Donc effectivement, ça peut être via des sorties dans le bois, avec des classes extérieures, donc un espace qui va être dédié, naturel, soit dans la cour des classes, soit en dehors. Ça peut être avec des expérimentations, des élevages, comme germer ses propres graines, faire pousser les plantes et en récolter les fruits. Ça peut être élever des fruits, avoir une fourmilière, puis en fait créer des cours et des ateliers autour de ça. Mais ça peut aussi tout simplement être prendre le temps d'observer, donc être allongé dans l'herbe, écouter le vent, regarder les nuages, apprécier le son des oiseaux, puis créer un atelier méditatif qui permettrait l'introspection et l'imagination des jeunes afin de stimuler tous leurs sens, en fait. Faut pas oublier que ce sont pas tous les jeunes, en fait, qui ont un accès à la nature ou l'éducation et les apprentissages qui devraient aller avec.
Bien évidemment. Et tu as parlé de jeu libre. Qu'est-ce que c'est ça, le jeu libre?
En fait, le jeu libre, c'est super simple. Comme son nom l'indique, c'est de laisser les jeunes découvrir, observer, expérimenter par eux-mêmes. Donc, que ce soit seul ou en groupe, qui vont se former naturellement. C'est leur laisser le libre choix de s'adonner aux activités correspondantes à leurs envies sur le moment présent, afin que ce soit en accord avec eux-mêmes. Donc, ça permet de respecter leur rythme. Il y en a certains qui vont avoir besoin et envie de se poser de manière plus solitaire au pied d'un arbre, d'autres de construire des cabanes avec des branches, certains de creuser dans la terre pour faire un terrier. En fait, ça donne un espace de liberté dans l'apprentissage qui favorise la créativité, l'épanouissement, la prise de risque saine, la collaboration, la communication, et j'en passe.
Tu viens de parler de la prise de risque saine. Qu'est-ce que c'est, ça, la prise de risque saine?
Ben en fait, on pourrait imaginer trois sphères qui seraient imbriquées les unes dans les autres. La première, au centre, c'est la zone de confort. Donc, dans celle-ci, en fait, on reste dans ce qu'on connaît, que ce soit dans l'environnement direct ou dans les activités réalisées, où on n'apprend pas ou peu. Par exemple, dans cette zone, un enfant est amené à effectuer une même tâche qu'il pratique tous les jours. Et dans le pire des exemples, ben, ce serait d'être affalé dans le sofa à écouter une émission peu enrichissante. Puis en fait, la deuxième sphère, qui est plus large, qui englobe la première, puis c'est celle qui nous intéresse, ce serait celle qui permet en fait une ouverture à l'inconnu et donc à l'apprentissage. Puis c'est celle-ci, la zone de prise de risque saine. Autrement dit, l'enfant, il organise puis il anticipe ses gestes en prenant des risques calculés et il apprend à affronter ses difficultés et à les surmonter. Donc dans celle-ci, on prend le risque de se confronter, d'apprendre à connaître ce qu'on ne connaît pas, d'explorer et vraiment d'être dans l'expérimentation. Pour reprendre l'exemple de tantôt, en fait, un enfant dans la forêt pourrait aussi bien travailler son équilibre, sa dextérité, son toucher en marchant sur des roches ou sur des troncs d'arbres, mais il pourrait aussi bien creuser dans le sol, observer les différentes couches qu'on y retrouve, toute la vie inconnue qui est présente, dont on lui a jamais parlé. Donc ça, c'est une prise de risque saine qui mène à un développement, en fait, qui va être sain également.
C'est super intéressant. Et donc, tu viens de nous parler des deux premières sphères. C'est quoi la dernière sphère?
Ouais, la dernière sphère, en fait, c'est on veut que l'enfant apprenne à ne pas y rentrer, mais qu'il apprenne juste à connaître ses limites. En fait, c'est la sphère de la panique. C'est quand la prise de risque n'est plus saine et qu'il y a un danger. Mais ça vient avec l'apprentissage également. En fait, pour résumer, comme pour tout dans la vie, ça prend d'aller vers l'inconnu, ça prend de prendre des risques pour apprendre. Tout le monde doit expérimenter pour aller de l'avant et pour développer sa propre expérience et ses propres aptitudes, tout en y allant étape par étape pour ne pas justement atterrir dans cette sphère de la panique. Mais si on prend l'exemple d'une personne qui aime bricoler, construire des choses, ça lui a pris d'un jour prendre des bouts de bois pour l'accoter sur un arbre, un autre, jusqu'à temps d'avoir sa cabane. Puis après ça, la personne, elle a pris un marteau, un clou, elle a peut-être tordu le clou, elle s'est tapée sur les doigts, mais ça fait partie de la prise de risque, mais elle a recommencé jusqu'à y arriver, parce que tout ça, ça fait partie des apprentissages de la vie, tout simplement.
Et donc, avec ce que tu nous dis, Johan, je me dis qu'il doit y avoir pas mal de bénéfices pour les plus jeunes et même les plus âgés à se rapprocher de la nature. Est-ce que ça a été recensé?
Oui, absolument. En premier lieu, en fait, il y aurait les bienfaits physiques. Donc, grâce à l'éducation par la nature, ça permet d'améliorer la vue, de diminuer les risques de myopie. On va plus se dépenser de l'énergie. On va avoir le goût de faire des activités physiques. Ça diminue les risques d'obésité. Ça va entraîner le bon développement des muscles, des os qui vont être nécessaires à la stabilité, à prévenir les blessures. Maximiser l'endurance, la force, renforcer ses défenses immunitaires. Donc ça, c'est tous les bienfaits physiques. En second lieu, il y a des bienfaits sociaux, parce que les jeunes vont avoir moins de compétition entre eux, mais plus de coopération. Ils vont apprendre à jouer ensemble, il va y avoir plus d'entraide, moins de conflits. Ils vont être sensibilisés de manière accrue aux conséquences de leurs actions sur eux-mêmes et sur les autres également. Ils vont avoir plus de facilité à se faire des amis, un meilleur langage, une meilleure communication. Puis au niveau cognitif, donc vraiment le développement cérébral, en fait l'éducation par la nature, elle stimule l'imagination et la créativité, ça améliore les compétences en résolution de problèmes, la concentration, la motivation, avoir un vocabulaire plus varié, des jeunes plus enthousiastes, mais même dans tous les autres domaines d'études, ça va participer à un enrichissement global. Ensuite, au niveau émotionnel, l'éducation par la nature, ça stimule tous les sens, le dépassement des peurs en testant, en allant dans la prise de risque saine, comme on l'a dit tantôt, ça sollicite des émotions positives, réduit le stress, l'anxiété, augmente l'estime et la confiance de soi, et j'en passe encore. Puis finalement, en fait, l'éducation par la nature, c'est à l'origine de bienfaits environnementaux aussi, puisque les jeunes vont développer un lien émotionnel étroit avec la nature, avec la conscience qu'ils ont une capacité d'action positive sur l'environnement, ce qui va donc permettre de former des générations futures soucieuses de la santé de leur environnement.
Eh bien, merci beaucoup, Johan, pour la chronique d'aujourd'hui. C'était, je pense, la dernière du mois, et tu vas reprendre avec Simon en septembre.
Exact. Merci beaucoup. Bonne journée à
merci
tout le monde.
Beaucoup. Bonne journée.
Au revoir.
Toujours à vos côtés pour l'été.